Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'Esprit. Très heureux de vous retrouver. La grande fête de Pâques qui est célébrée aujourd'hui reste un repère marquant dans le calendrier. Certes, on a oublié ce que faire ses Pâques veut dire, à savoir se confesser et communier au moins une fois par an lorsqu'on est baptisé. Mais il est indéniable que la résurrection du Christ a entraîné la plus grande révolution de l'histoire. C'est l'événement central de notre civilisation. Comment cette étincelle de vie qui triomphe de la mort s'est-elle transmise jusqu'à nous et dans notre pays déchristianisé est-elle prête à ressurgir? On serait tenté de le croire, à voir le nombre de baptêmes d'adultes en forte augmentation cette année, notamment parmi les jeunes. À l'heure où l'on présente souvent l'Église comme moribonde, à terre, attaquée, comment interpréter ce fragile sursaut de grâce? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit, dans cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Et pour parler de cette renaissance de Pâques et des très nombreux baptêmes d'adultes qui ont eu lieu cette année au moment justement de la fête pascale, eh bien nous sommes en compagnie de l'abbé Éric Iborra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Roch à Paris qui a accueilli cette année 55 baptêmes d'adultes. Vous étiez chargé de les préparer, de les accueillir et vous nous expliquerez donc comment se fait cet accompagnement. Avec nous également le frère Jean-Thomas de Beauregard. Bonjour mon père.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes dominicain, aumônier de lycée et auteur de « La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur terre ». C'est publié au CERF et vous nous expliquerez comment justement faut-il mettre le feu sur la terre dans cette société déchristianisée. Avec nous, Axel, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez dans la finance et vous faites partie de ces nombreux baptisés de Pâques 2024. Vous nous expliquerez ce que ça représente pour vous justement que le baptême. Et puis avec nous également Véronique Jacquier, bien sûr. Bonjour Véronique.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous.
Alors justement Véronique, Pâques, c'est le cœur de l'année et de la vie chrétienne. Comment ça se passe concrètement en deux temps, le samedi saint, la vigile pascale, puis la fête de Pâques le dimanche, donc aujourd'hui, avec différentes étapes importantes?
Oui, alors différentes étapes qui concernent surtout la vigile pascale. La vigile pascale, c'est la veillée de Pâques, elle a eu lieu hier soir. C'est important d'ailleurs que cette célébration ait lieu le soir pour passer ainsi des ténèbres à la lumière. La lumière, symbole de la résurrection du Christ. Alors au début de la vigile, l'église est plongée dans l'obscurité et à l'extérieur de l'église est allumé un grand feu qui va servir à allumer le grand cierge pascal. Ce cierge représente le Christ, lumière du monde. Et progressivement, toute l'église est éclairée par les bougies de l'assemblée qui ont été allumées à la flamme du cierge pascal. À ce moment-là retentit le chant de l'exultet, un très beau chant. Hein. Exultet, ça signifie exulter de joie en latin. Et il y a parmi ces paroles, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ensuite, sept lectures sont proposées pour une relecture de toute l'histoire du salut depuis la création. Donc la veillée, la vigile pascale est une veillée qui est quand même extrêmement longue. Hein. Et puis, comme c'est un moment du passage des ténèbres à la lumière et donc du péché à la vie en Dieu, vient le moment du baptême des catéchumènes, donc les personnes qui se sont préparées toute l'année à recevoir le sacrement du baptême. Et donc là, je viens de vous expliquer le rite de la lumière. Il y a ensuite le rite de l'eau lors de cette vigile pascale. Le prêtre prononce une prière de bénédiction de l'eau. Il plonge le cierge pascal dans la cuve baptismale, le cierge, donc, je vous le rappelle, qui représente le Christ. Et c'est ainsi que cette eau reçoit la puissance de l'Esprit Saint afin, dit la prière, que tout homme baptisé et mort dans le Christ ressuscite avec lui. Ensuite vient le quatrième moment de cette vigile pascale, c'est bien entendu la célébration de l'Eucharistie où les nouveaux baptisés communient pour la première fois et où sonnent à toute volée pendant le Gloria les cloches pour annoncer la résurrection du Christ. On ne les avait plus entendues depuis le Jeudi Saint. Ensuite, donc le dimanche aujourd'hui, c'est la grande messe de Pâques, et c'est une messe, si j'ose dire, c'est une célébration classique.
Alors, merci beaucoup Véronique pour ces explications. Reprenons notamment les éléments principaux de ces célébrations, Monsieur l'abbé Iborra. D'abord, le cierge pascal. On peut dire que c'est l'élément central de la fête de Pâques et qui fait le lien entre justement l'eau, le retour de la lumière et tout ce qui s'ensuit.
Oui, il est le symbole, il représente le Christ lumière qui dissipe les ténèbres, donc symbole de la victoire de la grâce sur le péché. Il est plongé dans l'eau, rappel trois fois dans l'eau, rappel de son, c'est Paulinien, du fait d'être plongé dans la mort pour ressusciter, et c'est ce que justement vont vivre sacramentellement les baptisés, les nouveaux baptisés de Pâques. Ils vont être plongés dans l'eau, ou alors effusion d'eau sur leur front, donc ils vont être plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, et le Saint-Esprit leur sera donné par le sacrement.
Père de Bourgard, c'est vrai pour les nouveaux baptisés, c'est vrai aussi pour finalement tous ceux qui assistent à la messe de Pâques. Là aussi, c'est une renaissance pour eux, on peut dire ?
C'est une renaissance et Véronique Jacquet disait tout à l'heure que la célébration était assez longue. Et en fait, je crois qu'il y a une pédagogie de la liturgie de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très long. Il y a un aspect presque pénitentiel d'une certaine manière avec cette célébration extrêmement longue, à l'issue de laquelle, effectivement, on éclate la joie de la résurrection. Donc oui, c'est vrai pour les baptisés qui redécouvrent ça, mais au fond, à chaque célébration de la Pâque, pour tous les baptisés, il y a cette renaissance après le temps du carême et au fond, cette relance de la vie chrétienne jusqu'à la Pâque suivante.
Et c'est ce qui se produit en fait à chaque fois qu'on célèbre la messe, qu'un prêtre célèbre la messe.
Notamment la messe du dimanche qui est vraiment la célébration de la résurrection du Christ. Parfois on l'oublie, mais la messe du dimanche, c'est vraiment ça. Nous faisons mémoire de la résurrection du Christ, donc haut les cœurs.
Avec évidemment à Pâques un déploiement de la liturgie. Axel, j'imagine qu'avant d'être baptisé, vous aviez déjà assister hein, à cette vigile pascale, à la messe de Pâques. C'est important pour vous, justement, ce déploiement extraordinaire de la liturgie lors de la fête de Pâques ?
C'est un peu la, sans mauvais jeu de mots, mais un peu la consécration, alors pas de l'hostie, mais un peu du parcours du catéchuménat que l'on fait. Alors, en la paroisse Saint-Roch, c'était pendant 6 mois. Et c'est vrai qu'on attend, je pense, tout ce moment avec impatience et qui est un but et un commencement en soi. Et effectivement, ce déploiement, par la longueur de la cérémonie et la beauté de celle-ci, célèbre et
c'est pas trop long.
C'est jamais trop long. C'est jamais trop long, ça passe vite, hein. Les longues messes passent vite, la messe des Rameaux, la messe de la Chandeleur, tout ça passe assez vite finalement.
À partir du moment où c'est beau.
Oui.
Abbé Iborra, il y a un élément sur le cierge pascal, j'y reviens, qui est très important aussi, ce sont les 5 grains d'encens qui sont placés et qui correspondent donc sur le cierge et qui correspondent aux 5 plaies du Christ. Ça veut dire aussi qu'on n'oublie pas, malgré la joie pascale, je dirais, la passion qui vient d'être vécue par le Christ.
Et dans la liturgie traditionnelle, c'est peut-être encore plus visible, puisqu'on va changer de couleur d'ornement en plein milieu de la célébration. Il y a d'abord... dans la forme la plus traditionnelle, 12 lectures qui sont en quelque sorte le rappel de l'histoire du péché et de l'histoire du salut dans l'Ancienne Alliance. Et puis une procession au fond baptismaux avec la bénédiction de l'eau, cette eau qui servira à chacun des baptêmes de l'année, du reste, pour remettre justement tous les baptêmes, même de petits-enfants, en lien avec la célébration pascale. Et puis, c'est là que se produisent les baptêmes des adultes. Et puis ensuite, eh bien, on revient en procession. Il y a une dernière prosternation du clergé dans le chœur. Et on revêt les ornements blancs ou dorés de la résurrection. Et donc, on a vraiment le point d'inflexion dans la veille entre ce samedi saint où il ne se passe rien, hein, qui est le grand repos de la mort, et puis le jour de la victoire de la vie. Je suis toujours frappé par la séquence de Pâques qu'on chante Pascali Lodes
et Victime Pascali.
Victime Pascali Lodes, où un des versets dit Dux vitae mortuus regnat vivus, le chef de la vie a été mort et il règne vivant. Il y a ce retournement impressionnant qui est vécu dans la liturgie, par la magie de la liturgie.
Et ça, c'est le sens profond de la fête de Pâques, oui, hein, ce passage de la mort à la vie.
Exactement. Avec les trois jours du Triduum qui sont, vous savez, comme les jours commencent...
Alors le Triduum, pardon, pour nos téléspectateurs, c'est jeudi saint, vendredi saint,
c'est ça.
Et samedi saint.
Et on pourrait même dire, d'une certaine manière, puisque les jours commencent à la tombée du soir dans la Bible, hein, il y eut un soir, il y eut un matin, eh bien, le jeudi saint, voilà, commence avec la dernière scène, Gethsémani, ça sera le jour de la mort. Du jeudi saint au vendredi saint, c'est Jésus qui va être soumis à sa passion et qui va s'éteindre après le grand cri où le Verbe devient silence au vendredi saint. Ensuite, il y a le grand jour du repos, du vendredi saint au soir, la mise au tombeau, jusqu'à la fin du samedi saint, c'est le mystère de la mort. Jésus qui descend aux enfers, au moins son âme. Et puis, le troisième jour, secundum scriptoris, hein, selon les Écritures, c'est le jour de la victoire de la vie sur la mort. Et des premières vêpres de Pâques jusqu'au soir de Pâques. Voilà.
Alors, je précise aussi que la paroisse, effectivement, où vous exercez, la paroisse Saint-Roch, ah oui, a la particularité d'être, comme on dit, biritualiste. C'est-à-dire que vous avez à la fois le rite de 1962, qu'on appelle la messe en latin, pour faire simple, pour le grand public, et puis la messe ordinaire, je dirais, depuis lors, qui est donc la plupart du temps en français. Véronique.
Oui, avant d'aller plus loin sur cette signification de cette belle fête de Pâques, qui est quand même le cœur de la foi chrétienne, frère Jean-Thomas, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on est tous concernés par la résurrection du Christ et pourquoi d'ailleurs fallait-il qu'il meure et qu'il ressuscite, tout bêtement ?
Alors, on est tous concernés parce que dans la théologie chrétienne, par le péché originel, tous les hommes naissent, au moins en tout cas marqué par le péché originel, de telle sorte que, en effet, si nous ne bénéficions pas des effets de la résurrection du Christ, eh bien, la mort signifie tout simplement notre fin, la corruption de tout, tandis que le Christ, par sa résurrection, nous emporte tous dans sa résurrection. Et c'est un événement qui, en effet, concerne tout le monde, parce que même ceux qui ne connaissent pas le Christ bénéficient d'une certaine manière du rayonnement de la résurrection du Christ, de telle sorte qu'on peut espérer, et on prie pour, que d'une manière ou d'une autre, ils en viennent à connaître et aimer le Christ pour pouvoir être emportés dans sa résurrection.
Oui, mais parce que la finalité de cette vie est marquée de toute façon par le fait de trouver la vraie vie en Dieu, c'est ça ?
Oui, voilà. Et de fait, le Verbe en s'incarnant, d'une certaine manière, s'est uni à toute la nature humaine blessée. Et c'est pour ça que Noël est le premier pas vers Pâques, puisque... en ressuscitant, il donne l'espérance à tous les hommes de participer à sa propre résurrection, sa victoire sur la mort. Lui est toujours en communion avec le Père, puisqu'il est le Fils éternel, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et en fait, c'est cette communion qu'il cherche à restaurer dans le Triduum pascal, enfin dans sa mort et sa résurrection, sachant par ailleurs que si notre âme est véritablement... sanctifié par la grâce du baptême, ça signifie, vous voyez, que nous sommes, comme dit Saint Paul, c'est le grand exégète hein, de tout ce que nous disons, eh bien, nous sommes incorporés au mystère de Jésus mort et ressuscité, bon, c'est la grâce du baptême, et cette incorporation au corps du Christ qui fait que nous devenons les membres de son corps, comme dit Saint Paul, fait que nous devenons semblables à lui, par adoption, certes, du Père. Autrement dit, nous sommes divinisés, un point sur lequel les orientaux insistent beaucoup, la théosis, cette divinisation. Et ce qui demeure, et ce qui souvent nous trompe un peu, c'est la concupiscence, c'est-à-dire le fait que nous restions blessés dans notre nature, pas encore restaurée, ça, il faut attendre l'Apocalypse et la fin des temps, et donc nous avons encore à combattre hein, contre les séquelles du péché dont nous sommes libérés par...
Donc ça veut dire que le baptême, on est sanctifié, comme vous dites, effectivement, oui. On reçoit la grâce, mais pour autant, on n'est pas encore saint. Quoi.
C'est un peu ça. C'est ce que fait le sacrement. Il divinise notre âme, il nous donne la possibilité d'être des saints, mais nous avons encore à participer à la victoire de Christ par notre combat ici-bas. Le Concile de Trente disait que la concupiscence était de laisser ad agonem hein, pour le combat, pour nous aussi, mériter avec le Christ.
La concupiscence, c'est l'attrait notamment de la chair ou les tentations qu'on peut avoir.
Voilà, c'est
tous les désirs.
Tous les désirs qui nous
repoussent sur nous-mêmes. En tant qu'ils sont désordonnés.
Voilà, c'est ça. Qui fait que, comme dit Saint Paul, le vieux homme en nous n'est pas totalement mort.
Père de Bourgard, un élément important, peut-être une évidence pour vous, mais pas forcément pour tous, la résurrection, c'est la preuve éclatante, évidente, de la divinité du Christ, parce que peut-être on aurait tendance à l'oublier, à faire de Jésus un homme, peut-être éminent, mais guère plus, et qu'aujourd'hui, on voit bien que les Français ont du mal, même de culture catholique, à croire à cet événement de la résurrection.
La résurrection du Christ, en effet, c'est une des preuves de la divinité du Christ. C'est même assez frappant que, avant même la mort et la résurrection du Christ, ce qui scandalise les Juifs de l'époque de Jésus, c'est d'une part qu'il pardonne les péchés en son propre nom, ce qui est une prérogative divine, normalement, et qu'il ressuscite les morts en son propre nom également. Et d'une certaine manière, lorsqu'il ressuscite, réanime Lazare dans l'Évangile très peu de temps avant sa propre résurrection, c'est pour annoncer qu'il est le maître de la vie et de la mort, et au fond, sa propre résurrection vient comme consacrer ce fait que, oui, il est le maître de la vie et de la mort, et cela, c'est le propre de Dieu, et ça apporte la preuve éclatante, et au fond, on explique vraiment l'expansion soudaine et franchement extraordinaire du christianisme dans les premiers siècles de l'Église que à partir du fait de la résurrection. S'il n'y avait eu que des enseignements fussent-ils remarquables, s'il n'y avait eu même que quelques miracles de guérison, après tout, il y en avait d'autres. En revanche, la résurrection et le fait que le Christ soit vraiment vrai homme et vrai Dieu, ça, c'était inédit, et c'est ce qui explique qu'en effet, le christianisme s'est répandu un petit peu partout comme une traînée de poudre.
Ça a changé l'histoire.
Ça a changé l'histoire. Au fond, d'une certaine manière, on peut dire que la résurrection, c'est le centre de l'histoire, de telle sorte d'ailleurs qu'au fond, jusqu'à la deuxième venue du Christ dans sa gloire à la fin des temps, il n'y a rien à attendre de plus qualitativement au cours de l'histoire. Nous avons déjà tout par l'Église, par les sacrements, par la parole de Dieu. Il n'y a rien, vous savez, parfois on aimerait qu'il y ait des signes un petit peu supplémentaires, des choses un peu extraordinaires. Oui, mais nous avons déjà tout. La seule chose qui nous reste à attendre, c'est la deuxième venue du Christ en gloire qui va nous faire entrer dans l'éternité et avec nous le monde entier.
Peut-être faut-il le redécouvrir quand même à certaines époques. Hein. C'est tout, sera tout l'objet de notre deuxième partie, Véronique.
Axel, ça change l'histoire, mais vous, en quoi ça change votre vie? De croire en la résurrection.
C'est assez évident de dire que ça bouleverse complètement, ça vous bouleverse complètement en tant que personne, et c'est quelque chose de sain et de normal, parce que ça change complètement votre rapport au monde et à vous-même, et à votre perception de la vie, parce que désormais croire en la vie éternelle, notamment par exemple, c'est effectivement quelque chose de très nouveau. Ça vous bouleverse en vous, et ça change effectivement, comme je disais, votre rapport aux autres, qui devient de façon tout à fait naturelle, complètement changée, parce que vous êtes désormais catholique et vous croyez en un système de pensée et de valeurs autour d'une foi qui infuse en vous. Donc c'est vraiment un changement qui est assez indescriptible, parce que c'est...
Mais c'est concret aussi? Est-ce qu'il y a des changements dans votre comportement ou dans votre vie de tous les jours liés effectivement à cette adhésion à l'Église et à sa foi?
Oui, oui, il y a déjà, peut-être je pourrais répondre en deux axes, il y a déjà toute une mise en place de choses et de rites, par exemple faire ses prières du matin, faire ses prières du soir qui encadrent la journée, avant de manger par exemple, ce genre de choses. Ça cadre aussi votre vie quotidienne ou hebdomadaire, parce que je passe beaucoup de temps à la paroisse avec monsieur l'abbé notamment. Donc c'est au niveau du quotidien, forcément, vous consacrez beaucoup de temps à la croyance. Et puis oui, ça change concrètement, avoir la foi, l'espérance et la charité qui sont désormais les trois grands axes de votre vie. Effectivement, ça change complètement votre rapport aux autres et à vous-même. Donc c'est un travail quotidien qui n'est pas facile. Parce que moi, j'ai eu des commentaires en disant « désormais, ta vie est facile parce que tu crois en Dieu, donc c'est simple, voilà. Il y a quelqu'un qui t'aime tout le temps, et puis tu vas aller au paradis, et puis c'est chouette, voilà. »
C'est pas si simple.
Ah non, c'est pas ça du tout. C'est un travail quotidien et une remise en question quotidienne. Alors, je veux pas décourager ceux qui voudraient rentrer en chrétienté, hein, mais c'est justement une exigence envers soi-même et envers les autres, et mais c'est magnifique de vraiment progresser ainsi. Donc, ce serait... mes deux réponses. Oui.
Merci pour votre témoignage. On va y revenir, hein, oui. Bien sûr, sur votre cheminement. Après la pub, juste avant, Abbé Iborra, est-ce que c'est facile de croire à la résurrection pour notre société aujourd'hui, quand on voit que même pour les plus proches disciples du Christ, ils ont mis en 40 jours avant d'oser proclamer cette nouvelle publiquement?
Oui, c'est sûr qu'on sort du carême, on a le triomphe pascal, la victoire du Christ, mais il a fallu cette plantation de l'Église. Le Christ a mis 40 jours par des apparitions successives. Et on voit qu'au moment de l'ascension, au moment où il s'en va, certains se posent encore des questions en disant « Mais est-ce qu'il n'était pas venu pour restaurer le royaume ici-bas » Donc finalement, non, ce n'est pas si facile que ça. On le voit à chacune des apparitions, les apôtres qui étaient censés être quand même préparés.
Saint Thomas en premier lieu, bien sûr,
oui,
Saint Thomas, exemple ultra célèbre.
Oui, voilà, Pierre devant le tombeau, au bord du lac de Tibériade, bon, etc. On voit bien qu'il y a une certaine retenue. Parce que, comme dit, je crois, Saint Paul, personne n'a jamais vu quelqu'un ressusciter.
C'est un événement incroyable.
Les morts. C'est un événement inouï, impensable, incroyable. Et puis on fait aussi l'expérience que de notre mortalité, du fait que le monde n'a pas été transformé, on pourrait dire, matériellement, parce que notre nature blessée demeure, et cette nature blessée dans un cosmos abîmé.
Et on revient à l'exigence, voilà, effectivement, dont parlait Axel
tout à l'heure, oui.
À l'instant. Alors, on va marquer une courte pause de publicité, on se retrouve tout de suite après, pour parler notamment de ce phénomène à l'occasion de la fête de Pâques 2024. Eh bien, ce sont ces baptisés adultes qui sont en très forte hausse, plus de 30%. On en reparle juste après, donc vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons à l'occasion de la grande fête de Pâques, de ces baptêmes d'adultes qui sont en forte hausse cette année. C'est une grande joie, bien sûr. Nous verrons aussi comment il faut analyser ce phénomène et quels en sont les enjeux pour la société française, finalement, tout entière. Pour en parler, nous sommes avec l'abbé Éric Iborra. Il est vicaire à la paroisse Saint-Roch à Paris, qui accueille cette année 55 baptisés adultes, dont fait partie Axel, qui est avec nous également aujourd'hui, et puis le frère Jean-Thomas de Borgard, qui est dominicain et qui est auteur de « La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre », publié au CERF, et c'est véritablement, effectivement, l'enjeu aussi sous-jacent derrière ces baptêmes d'adultes, bien sûr. Véronique est avec nous, Véronique Jacquier, et cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, justement, pour bien comprendre ce phénomène, nous allons faire une revue de détail des chiffres 2024 des baptêmes d'adultes. C'est ce qu'on appelle des catéchumènes, qui sont donc en forte augmentation. Et c'est avec Éloi Rochebrune.
Le nombre d'adultes baptisés cette année à Pâques progresse de 31% par rapport à 2023. Ils sont 7135. L'année dernière, ils étaient 5463 d'après l'enquête annuelle de la Conférence des évêques de France. 62% sont des femmes, 38% sont des hommes. Toutes les tranches d'âge progressent, mais la hausse la plus forte est chez les 18-25 ans, qui représentent cette année 36% des baptisés adultes. Une autre tendance se dégage, l'augmentation du nombre de baptisés adultes en zone rurale. Ils sont 29% en 2024. Ils étaient moins nombreux les années précédentes. C'est ce qu'on découvre dans certaines provinces majoritairement rurales. Les hausses vont jusqu'à plus de 50% du nombre de baptisés adultes pour les provinces de Clermont-Ferrand, Dijon ou encore Besançon. Le nombre de baptisés adultes se déclarant issus de familles sans religion augmente aussi de manière significative. Un quart cette année. Ceux d'origine musulmane représentent 5%.
Alors, Père de Borgard, un petit commentaire donc sur cette forte augmentation du nombre de baptisés donc adultes cette année en France. C'est un démenti, en quelque sorte, à la crise de l'Église ?
Oui et non. À la fois, on s'en réjouit vraiment. Et de fait, une augmentation d'à peu près 30%, et qui est d'autant plus remarquable qu'elle n'est pas située ni sociologiquement, ni en termes de sensibilité ecclésiale. C'est vraiment partout sur le territoire français, quelle que soit la sensibilité ecclésiale, quelle que soit la sociologie. Donc ça, vraiment, c'est assez spectaculaire et on s'en réjouit. Après, ce qui est vrai aussi, et il faut être lucide, c'est qu'il y a un peu un effet de rattrapage, c'est-à-dire que tous ces gens-là, d'une certaine manière, il y a 30 ans, ils auraient été baptisés enfants, pour une bonne partie d'entre eux, peut-être pas tous, mais une partie d'entre eux. Il y a peut-être un peu l'effet Covid qui joue aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu deux années très difficiles où les gens ont été amenés à se poser un tout petit peu des questions sur leur existence. Donc il y a l'exemple historique qui me vient en tête, c'est le boom des vocations des séminaristes après la Deuxième Guerre, et où d'un coup il y a eu des séminaires ultra pleins. Bah oui, forcément, pendant 4 ans, il n'y avait pas eu d'entrée. Donc à la fois on se réjouit et c'est merveilleux, et on aura l'occasion d'en discuter un petit peu, de l'analyser plus en détail. En même temps, voilà, soyons raisonnables, ça ne compense pas ne serait-ce que les pertes et de baptême d'enfants et à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, les baptisés âgés qui s'éteignent progressivement.
Alors effectivement, vous parlez des baptêmes d'enfants. Regardons effectivement rapidement ces quelques chiffres. Hein. De 2000 à 2020, eh bien, on est passé de 400 000 baptêmes d'enfants à 93 000. Donc effectivement, cet effet de rattrapage, il joue certainement. Abbé Ibora, quand est-ce qu'a commencé ce phénomène d'augmentation des baptêmes d'adultes cette fois à l'échelle de votre paroisse? Je crois que c'est il y a un an et demi, deux ans, effectivement. Est-ce qu'il y a un effet Covid ?
Il y a déjà un effet avant. J'ai regardé les statistiques du diocèse. Où on était à peu près à 400 en 2015. Ensuite, il y a une sorte de descente, même pas liée au Covid. Hein, c'est descendu vers 350. Et depuis deux ans, les chiffres ont beaucoup augmenté. 517 cette année, 418 l'an dernier, oui, en 2022, et puis et avant 350, quelque chose comme ça. Donc il y a une véritable remontée. Dans ma paroisse, en fait, les choses sont un peu différentes. Comme vous disiez tout à l'heure, on est une paroisse un peu biritualiste. Quand je suis arrivé en 2019, on a eu finalement 2019. Donc en 2020, il y avait quatre baptêmes, juste quatre. Et il faut dire que c'est une paroisse de centre-ville, hein, où il y a très peu d'habitants sur place, plutôt pratiquants, donc les gens baptisent leurs enfants quand ils sont petits. Et puis, avec la mise en place de la messe traditionnelle, on est passé de 100 à 1000 à peu près, il y a eu un phénomène d'attraction. Et le chiffre a augmenté considérablement, puisqu'on est à 55 cette année, on était à 22 l'année dernière et 17 l'année d'avant.
Alors, on va regarder, parce que c'est un phénomène national, on va écouter dans quelques instants le témoignage d'Axel, bien sûr, hein, qui a fait partie donc, de ces demandes de baptême qui sont en très forte augmentation auparavant. Comme le phénomène est national, je vous propose de nous rendre dans l'Oise, donc là, une paroisse rurale, qui accueille, elle aussi, beaucoup de baptêmes d'adultes cette année, et notamment grâce aux réseaux sociaux. Regardez, c'est un reportage signé Éloi Rochebrune.
Renoncez-vous à Satan.
Avant le grand jour, Dimitri, Émilie, Anne-Gaëlle et Elisa répètent une dernière fois avant de plonger dans le grand bain. C'est le père Thomas, curé de la paroisse, qui les a préparés toute l'année. À côté du baptistère, il leur rappelle une dernière fois le sens du sacrement du baptême.
L'enjeu, c'est transmettre l'intégralité de la foi, parce que c'est un trésor qui nous fait plonger dans la vie spirituelle et dans la vie quotidienne, mais aussi le vivre dans une communauté chrétienne. Les motivations sont tellement diverses parfois, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est là. C'est transmettre la vie du Christ, sinon on ne sert à rien. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a donné notre vie.
Des chemins parfois très différents, Dimitri a poussé la porte d'une église suite à la perte d'un proche. Une rencontre avec le père Thomas, des cours de catéchisme, il entame le parcours classique du catéchumène, auquel vient s'ajouter les réseaux sociaux, nouvel outil d'apprentissage de la foi.
Alors c'est sur Discord, c'est quelque chose qui s'apparente un peu à Skype. Et dessus, il y a des serveurs que les gens créent. Et sur un serveur, que j'ai rejoint par hasard un peu. Et j'ai vu qu'ils faisaient le chapelet tous les soirs à 21h. Si on a des questions, ils y répondent. Si on a des doutes, ils sont là pour parler.
Et ça t'a aidé dans ton chemin?
Ouais, ça m'a beaucoup aidé. C'est ce qui m'a un peu convaincu aussi de continuer là-dedans. Puis d'être entouré, même tout seul dans ma chambre au final.
Anne-Gaëlle a redécouvert la foi suite à un deuil familial. Cette mère de famille a perdu son frère dans un accident de voiture il y a 8 ans.
Toutes les années, j'ai pensé. Et en fait, ça m'a fait croire plus encore en Dieu. Même si pourtant c'est un accident de voiture, on pourrait perdre la foi. Ben, moi, ça me l'a donné.
Son parcours l'a conduit aujourd'hui à partager sa foi avec ses enfants.
Mon fils est un athée. Il n'est pas croyant ni pratiquant, mais depuis que je me prépare au baptême, il me pose de plus en plus de questions à ce sujet.
Le catéchuménat est parfois semé d'embûches. Le doute, mais aussi le jugement des autres, c'est ce qu'a vécu Émilie.
Donc moi, je suis par exemple grandie dans une famille musulmane. Donc c'est un choix à moi. Donc c'est pas toujours facile de l'imposer. Mais c'est un choix. C'est personnel. J'ai pas laissé tomber.
Cinq catéchumènes ont été baptisés à la veillée pascale dans cette paroisse de 85 villages. Une petite flamme qui portera de grands fruits dans le diocèse de Beauvais. Le père Thomas en est convaincu.
Alors Voilà ce reportage de Éloi Rochebrune. J'aimerais une première réaction, Axel, notamment sur cette place des réseaux sociaux. Alors peut-être est-ce votre cas ou en tout cas d'autres baptisés adultes de cette nuit de Pâques 2024. On met en garde, avec raison, bien sûr, contre l'usage excessif des réseaux sociaux. Mais là, en l'occurrence, on voit que c'est une utilisation plutôt positive.
Oui, moi, on pourrait dire ça. Alors moi, ça n'a pas été vraiment par là, parce que j'en utilise pas beaucoup. Moi, ça a plutôt été... mais c'est vrai que, pas vraiment les réseaux sociaux, mais plutôt Internet en général, vous avez des outils comme YouTube, par exemple, qui sont assez faciles d'accès. Vous trouvez dessus des cours de catéchisme qui sont assez bien faits. Ou effectivement, là, dans le reportage, le jeune homme qui mentionnait un chapelet tous les soirs, vous voulez vous renseigner, c'est assez facile, etc. Mais il est vrai que pour avoir un petit peu regardé quand même, effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui créent une sorte de communauté virtuelle qui peut être très importante, parce que nous, dans la paroisse Saint-Roch, elle est quand même assez marquée en réel, si je puis dire. Mais c'est vrai que si vous êtes très isolé ou que vous êtes dans une paroisse où vous ne pouvez pas trop vous y rendre trop souvent, ça peut être un très très bon moyen. Oui.
Un commentaire, Père de Beauregard, puis Abbé Iborra, justement, est-ce que l'enjeu c'est de passer du virtuel, qui est une porte d'entrée, on va dire, et puis ensuite au réel de la vie paroissiale d'une paroisse
Je crois qu'en effet, c'est l'enjeu, parce que le christianisme, c'est quand même la religion de l'incarnation, et les sacrements, on ne peut pas les vivre de manière virtuelle. Donc il y a ce passage-là qui est nécessaire. Ceci dit, c'est une porte d'entrée et je me réjouis vraiment que les catholiques aient investi plus massivement le continent Internet, comme on disait autrefois, et les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que il reste encore un déficit, mais jusqu'à il y a peu, ça reste encore un peu vrai d'ailleurs, si vous tapiez sur Google qu'est-ce qu'il y a après la mort, ou les fins dernières, ou le paradis, ou la prière, il fallait arriver facilement à la 30e entrée pour tomber sur un site qui soit catholique. Tout le reste, c'était soit l'islam, soit les protestants, soit telle ou telle secte étrange. Donc là, il y a un phénomène de rattrapage qui est nécessaire, qui suppose un certain professionnalisme, parce qu'il y a une telle concurrence que si c'est pas très bon et très bien fait, avec une régularité, avec une maîtrise des codes d'Internet, notre frère Paul Adrien fait ça très bien, par exemple, chez les Dominicains, on ne perce pas. Mais c'est vraiment très important. Et au début, j'étais un peu sceptique parce que je me disais, le fonctionnement d'Internet, avec ce fonctionnement en alvéole où au fond, on ne touche que ceux qui pensent déjà la même chose que nous, je me disais, au fond, c'est déjà des gens qu'on aurait vus de toute façon. Mais ce que me disait le frère Paul Adrien, justement, c'est que sur, mettons, 100 000 personnes qui regardent une de ces vidéos, il y en a 10% qui ne sont pas du tout chrétiens. Et donc pour ces 10%-là, sur des chiffres pareils,
c'est le seul contact qu'il puisse avoir avec l'église Véronique Jacquier. Ouais.
Axel, est-ce que en choisissant de recevoir le baptême, vous entrez dans une communauté fraternelle? J'imagine que vous avez déjà une famille, mais je pense qu'à travers le baptême et à travers le fait d'arriver à toucher les gens via les réseaux sociaux, on est dans une société tellement individualiste que cette plus-value, j'aime pas le mot, mais du christianisme, c'est aussi l'apprentissage de faire corps, d'être dans une communauté, non?
Oui, de toute évidence, oui. C'est comme vous le dites si bien, quand on est dans une société où chacun ne voit et ne pense qu'à soi, arriver dans une paroisse où, moi, dès le début, la première fois que j'ai poussé les portes de Saint-Roch un mardi soir et que j'ai atterri à une messe en latin, ça s'est pas très bien passé pour moi parce que j'étais complètement perdue, mais tout de suite après, on est tout de suite venu me voir parce que j'étais nouvelle et que ça se voyait que j'étais un petit peu décontenancée, et on m'a tout de suite... aider, et c'est avec un côté justement très fraternel, naturel, comme si on avait des liens familiaux déjà initiés.
Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de votre démarche, de votre cheminement vers le baptême? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier?
C'est toujours assez compliqué de...
Vous venez d'une famille qui était plutôt de culture chrétienne?
Plutôt,
mais sans forcément de pratique ou de...
Oui, non. Moi, j'étais en établissement, en ensemble scolaire privé catholique. Donc, effectivement, j'avais quand même une approche de la religion. Mais après, ça a été graduel, mon approche avec Dieu. Et puis après, ça a été... je m'y intéressais quand même beaucoup. Et puis, ça a été récent, l'année dernière, où je m'étais dit... c'est quand même dommage de croire en Dieu et de quand même se sentir concerné par des messes ou d'apprécier les églises, etc. Et de quand même pas se revendiquer catholique.
Fallait jusqu'au bout.
Oui, voilà. C'était une sorte de parachèvement de tout le parcours que j'avais fait depuis enfant, graduellement, où si vous voulez, j'avais suivi les grâces que Dieu mettait sur mon parcours.
Mais vous n'aviez pas donc reçu effectivement le sacrement de baptême. Mmh. Vous avez dit dans un de vos témoignages, et j'ai noté la phrase qui est très belle, une partie de moi demandait à être complétée.
Oui.
Est-ce que vous pourriez développer et expliquer ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui vous manquait ?
Qu'est-ce qui me manquait ? Il me manquait un aspect, je pense, complètement spirituel, en fait, à ma vie. Je pense que c'est le curé de Saint-Roch qui utilise souvent cette expression qui parle de la foi qui infuse en nous. Et oui, c'est comme s'il fallait un petit peu souffler sur la braise pour allumer le feu pascal, si vous voulez. Mais ce qui manquait, ce qui voulait être complété, oui, c'était tout cet aspect spirituel qui, je pense, est en fait important pour chacun d'entre nous ici.
On va revenir à votre témoignage, mais simplement j'aimerais avoir une réaction de nos deux autres invités sur cette dimension finalement, effectivement, cette absence de ou cette soif spirituelle, cette absence justement de spiritualité dans la vie, dans la société aujourd'hui. Est-ce que c'est ça, effectivement, qu'expriment les jeunes catéchumènes, futurs baptisés, qui frappent à la porte de l'église, Abbaye Bora, puis Père de Bourgard ?
Eh bien, moi je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de ça, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont à peu près de la deuxième génération après mai 68. C'est-à-dire, les gens qui ont fait mai 68 ont eu tendance à mettre un peu des bémols ou des points d'interrogation à tout ce qui était enseigné. Souvent laisser libre la génération de leurs enfants.
Qu'on a appelé la déconstruction.
Voilà, et progressivement, il reste plus rien. Et pour un bon nombre, en fait, c'est une. Moi, je vois ça à travers les lettres qu'ils ont pu envoyer. Pour un bon nombre, il n'y a absolument aucune formation chrétienne, aucune connaissance même du christianisme. Parfois, un petit quelque chose à travers des grands-parents ou l'école catholique où on a mis les enfants. Et puis, il y a une découverte qui se fait, je pense, à cause de cette insécurité aussi de nos sociétés liquides, où justement, il n'y a plus de repères. Et en fait, ce qui fait, moi, j'interprète aussi le fait que 90% se sont fait baptiser dans la forme traditionnelle, c'est la dimension, je dirais, de verticalité de la sacralité de l'ancienne messe. Hein,
de la liturgie, oui.
De la liturgie. Et puis, la plupart disent ça également dans leurs lettres, dans leur réaction. C'est aussi l'affirmation dans l'enseignement. C'est-à-dire, prédication, enseignement divers, notamment enseignement catéchétique, etc. Ou, si vous voulez, peut-être on met davantage de points d'exclamation que de points d'interrogation, peut-être plus de dièse que de bémol aussi dans les exigences. Et finalement, ça plaît parce que des gens qui n'ont plus de racines se rattachent à quelque chose, à des certitudes. Voilà, alors des certitudes. Bah, la foi est une certitude. C'est une certitude, ça peut être une connaissance obscure, dit saint Paul, mais c'est quand même une connaissance certaine. Et eh bien, c'est cela qu'il, me semble-t-il, trouve aussi à travers ses offres. Alors, j'ai beaucoup remarqué que ça passe par les écrans. Aujourd'hui, dès qu'on se pose une question, on cherche la réponse sur Internet et il tombe effectivement sur des cours de catéchisme.
On peut tomber sur les bonnes réponses.
Séances, il tombe sur Paul Adrien. Et puis, il ne s'en lasse pas. C'est ça qui est très étonnant. On se dit parfois, peut-être de leur donner quelques heures de cours, ça va être pénible pour eux. Eh bien non, ils passent 40 heures sur le catéchisme de la guérie, ou je ne sais
quoi. Père de Bourgard, on vit dans une société multiculturelle. Est-ce que cette dimension-là aussi, finalement, de concurrence entre plusieurs religions, fait que certains reviennent au christianisme ?
Je pense que ça joue, en effet. Notamment, là, il y avait un certain nombre d'articles de presse qui montraient que il y avait ce phénomène de baptême d'adultes en masse, si je puis dire, soyons raisonnables sur l'étendue de la masse, mais tout de même, était valable aussi dans les banlieues que l'on peut imaginer massivement musulmanes, et notamment parce que, effectivement, ces jeunes qui ont grandi dans un milieu où les jeunes musulmans, les jeunes évangéliques aussi, ont une expression très libre et assez affirmée de leur foi, eh bien, ils ne voient pas très bien pourquoi ils n'en feraient pas autant. Par ailleurs, je rejoins un peu le diagnostic de l'abbé Ibora sur une chose, c'est que Je ne pense pas que l'Église ait perdu une partie des gens, et notamment des jeunes, par une trop grande exigence, mais par un défaut d'exigence.
Oui, c'est ça.
En réalité, si ce que nous proposons en termes de foi, en termes de morale, et en termes d'une certaine manière de vie quotidienne, ne tranche pas de manière assez forte avec le climat ambiant, alors ça ne sert à rien de se convertir. Et en fait, les jeunes sont en recherche d'une exigence. Et notamment, je pense aussi à tous ces jeunes qui viennent de familles qui souvent sont assez déstructurées, multi-décomposées, recomposées. Il ne s'agit pas de porter un jugement moral là-dessus, mais le fait est
c'est
que
fait.
C'est ce climat dans lequel ils grandissent. Et donc, avoir en face d'eux des adultes prêtres ou laïcs, qui ont un discours de vérité, assumé et porté comme tel, et dont on peut imaginer que leur vie se conforme à leur discours, finalement, c'est quelque chose auquel ils sont assez peu confrontés avec leurs professeurs, avec leurs parents, avec les adultes autour d'eux, qui souvent se cachent un peu derrière leurs petits doigts et n'osent pas porter le moindre discours un petit peu fort et de vérité.
Eh bien, Ibora, et puis ensuite Axel, qui nous
donnera son témoignage. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. C'est notamment sur la question de l'identité, parce que je remarque qu'à peu près plus de la moitié de nos candidats cette année en fait, viennent d'au-delà du périphérique et font justement cette expérience de l'identité en creux, si j'ose dire. C'est-à-dire une identité affirmée chez ceux qui ne sont pas catholiques, voilà. Et eux, soudain, ils se disent, il nous manque une dimension, la dimension religieuse. Alors, qu'ils ont peut-être approché les uns ou les autres, par exemple, par des études d'art, par leur goût du patrimoine, ce que tu disais un peu tout à l'heure, Axel, hein. Et puis, il manquait quelque chose, et puis ils ont osé franchir le pas. Et alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est leur audace. Parce que j'ai l'impression qu'à notre génération, on en aurait moins parlé. Et là, par exemple, il y en a un qui découvre la paroisse, qui a envie de se faire baptiser, et puis bah, qui en parle à ses camarades d'école, et puis ils viennent à 3, 4, 5, demandent à l'école architecte.
Le rôle de l'amitié aussi.
Oui, l'amitié, etc. Et puis, y a véritablement une sorte de décomplexe. Ils sont décomplexés, hein, vis-à-vis de ce qui paraît toujours, pour leur entourage, un choc. On parlait de la difficulté de trouver des parrains ou des marraines. C'est aussi parce qu'ils sont souvent absolument seuls dans leur milieu. D'où aussi le fait qu'ils aiment bien se retrouver à la paroisse, qui leur fournit peut-être à certains égards une famille chrétienne. Oui.
Axel, vous confirmez cette nécessité aujourd'hui, quand on entre dans l'Église, de se situer d'une manière ou d'une autre à contre-courant de la société ? Et est-ce que ça fait peur ?
Il y a de ça, mais il y a aussi, comme vous l'avez souligné, une recherche de l'exigence qui est de mettre
plus fort
de la verticalité dont en fait chaque homme a besoin, je pense, et c'est ce qui est, vous parliez tout à l'heure de la célébration dans le baptême dans l'ancienne forme qui est très prisée, qui est une forme un peu plus exigeante que forcément une messe en vernaculaire. Et il y a de ça aussi qui joue. Et puis après, la deuxième partie de votre question sur le fait que ça fasse peur, le fait de se sentir seul, oui, c'est une forme de... C'est effectivement... Alors moi, ça ne m'a pas fait peur, mais c'est, vous le vivez de toute façon, vous vous sentez isolé, mais encore une fois, c'est des réactions qui sont normales. Et puis... Non, pardon.
Véronique Jacquet.
Oui, justement, j'imagine que derrière, il y a une dimension d'apôtre. Vous avez envie de témoigner, vous avez envie d'être audacieux. C'est ce que dit l'abbé Ibora.
Oui, mais sinon, je ne serais pas là aujourd'hui.
Voilà, tout à fait.
Merci.
C'est important de le souligner. Et deuxième petite question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité de continuer la formation et l'enseignement derrière le baptême ? Parce que toutes ces jeunes pousses, là, vous n'allez pas les laisser dans la nature, j'imagine.
Je crois qu'il y a effectivement une nécessité, on en parlait hors plateau tout à l'heure, d'un service après-vente, si je puis dire. Il ne s'agit pas seulement d'infuser la grâce, même si elle est efficace par elle-même, mais ensuite il faut l'insertion dans une communauté, que ce soit une communauté paroissiale ou auprès d'un couvent, d'un monastère. Mais voilà, que effectivement, ce qui a pu se présenter à un moment comme une sorte de rupture aussi, il ne faut pas le nier par rapport éventuellement à un milieu, etc., soit au minimum Et c'est vraiment le minimum compensé par une insertion dans une communauté et puis par des temps de formation. Ça, ça se fait normalement dans des activités paroissiales qui existent en principe dans toute paroisse un peu structurée. C'est peut-être plus difficile dans des paroisses qui sont plus pauvres démographiquement, humainement, en ressources. Mais je crois que c'est capital parce que sinon, bah, effectivement, on allume une étincelle et puis bon, c'est un peu fragile. Il faut quand même un peu souffler sur les braises de temps en temps pour que ça fasse un brasier.
Alors justement, pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais qu'on élargisse un petit peu la focale pour nous interroger finalement. Est-ce que cette très forte hausse des baptisés adultes, on a dit que c'était pour une part un rattrapage, mais c'est quand même évidemment une bonne nouvelle dont il faut se réjouir pour l'Église. Est-ce qu'on assiste d'une certaine manière à un réveil des consciences en France? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire et comment accompagner le mouvement justement parce que effectivement l'enjeu c'est aussi le renouveau d'une société tout entière, Abbé Iborra?
Eh bien, peut-être, oui, on assiste au moins dans quelques... Alors, des milieux qui peuvent nous surprendre, parce qu'effectivement, on avait tendance à penser que le catholicisme ne prospérait plus que dans certains milieux un peu protégés. Et là, on s'aperçoit que la question de la foi, la question aussi de l'appartenance à une communauté vivante et qui témoigne sans prosélytisme ni violence, est un peu réparti dans un peu partout. Donc je vous disais, j'ai beaucoup de gens qui viennent d'au-delà du périphérique, par exemple. Et alors, je pense que notre défi, effectivement, néophytos, un néophyte, ça veut dire nouvellement planté, même si moi, j'ai toujours vécu à l'intérieur du périphérique, je sais quand même qu'on met des tuteurs pour faire grandir les plantes. Je pense qu'il y a l'accompagnement personnel qui est proposé maintenant pour la préparation au catéchuménat, donc c'est rencontrer des gens qui sont déjà des chrétiens d'un certain temps, mais je m'aperçois que des néophytes de l'année dernière ou d'il y a 2 ans sont très demandeurs pour être accompagnateurs des futurs baptisés. Il y a leur parrain marraine aussi, quand ils choisissent des gens qui sont baptisés, confirmés, et avec qui ils ont une relation de foi, pas simplement de connaissances familiales un peu plus lâches. Et puis, il y a les activités paroissiales, vous disiez très bien. Et moi, je vois, par exemple, on a une scola qui compte une trentaine de personnes qui intègre chaque année plusieurs néophytes. Alors, il faut savoir bien chanter.
En tout cas, il ne faut pas les laisser seuls.
Voilà. Et puis, il y a les servants de messe. Alors, plein de garçons qui viennent servir la messe après avoir été baptisés. Donc, voilà, on a pas mal... qui organisent des conférences. Je me perçois que parmi ceux qui sont les plus actifs dans la paroisse, on a beaucoup de néophytes.
Donc il y a un changement générationnel à l'œuvre.
Qui ont pris leur place
très bien. Père de Beauregard, en quelques instants.
Oui, je crois qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'un réveil qui n'est pas forcément spectaculaire au plan démographique, mais qui est très enthousiasmant quant à la ferveur. Ça me frappe beaucoup. J'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante, multi-engagée dans tel ou tel mouvement, etc. Mais les jeunes auxquels je suis envoyé, que ce soit un groupe d'étudiants dont je m'occupe, le lycée dont je m'occupe, etc., sont d'une ferveur, d'une inventivité, d'une radicalité dans l'exigence de sainteté, à côté de laquelle je rougis un peu a posteriori de ma propre tiédeur quand j'avais leur âge. Donc ça, il y a quelque chose de très beau. Et même par comparaison, pour voyager de temps en temps en Europe ou ailleurs, et notamment par rapport à des pays d'ancienne chrétienté que peuvent être par exemple l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, etc. Là-bas, l'aspect culturel de la foi reste quand même un peu plus prégnant que chez nous. Mais en revanche, ils n'ont pas du tout l'équivalent d'une jeunesse aussi fervente, avec des mouvements extrêmement dynamiques, créatifs, etc. Et ça, je trouve que c'est très beau. C'est les minorités créatrices dont parlait Benoît XVI, mais je crois que, en l'occurrence, c'est vrai.
Je voudrais terminer par une de vos citations, Axel, très belle, puisque en fait, vous avez découvert, enfin, en tout cas, vraiment, vous avez été attiré au moment d'une messe de Noël et vous avez découvert que Dieu vous aimait.
Oui.
Voilà. Et c'est ça, finalement, qui a été le déclencheur de votre démarche.
Oui, oui, oui. Je l'ai senti physiquement. Alors, j'ai senti un vent froid dans mes oreilles et un souffle froid qui, mais tout ça m'a rempli beaucoup de chaleur, comme j'aime bien le raconter. Et effectivement, j'ai senti que Dieu était là et qu'il m'aimait et que je l'aimais aussi. En fait, c'était surtout ça. Et qu'il était... il y avait un amour mutuel et réciproque qui grandit de jour en jour. Et c'est ça, je pense, qui est finalement le socle de la foi et qui est très important de rappeler. Effectivement, oui.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à tous d'avoir éclairé cette belle fête de Pâques et puis ce phénomène effectivement de baptisés adultes en forte augmentation. Abbé Éric Iborra, donc, vous êtes prêtre à la paroisse Saint-Roch, père de Borgard. Je cite votre livre « La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre » publié au CERF. Axel, donc, merci de votre témoignage. Véronique Jacquet, qu'y a-t-il à lire dans France Catholique cette semaine ?
Eh bien, Pâques, éclairé par le bel évangile des pèlerins d'Emmaüs, vous voyez la une qui s'affiche, donc France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.
Voilà, merci à Thomas Leroy et aux équipes techniques de CNews. Et puis la semaine prochaine, eh bien, nous parlons de Notre-Dame de Paris, 5 ans après l'incendie, et là encore, une étonnante mobilisation des jeunes catholiques. Vous resterez donc à notre écoute. Bonne journée à tous.